Plusieurs auditeurs m'ont écrit pour me poser des questions concernant le Saint-Esprit et ses manifestations. C'est avec plaisir que j'aborde une fois de plus ce sujet. Il préoccupe beaucoup de croyants, d'autant plus que certaines sectes semblent faire du Saint-Esprit une sorte de cheval de bataille. Leurs affiches et leurs prospectus invitent à assister à des séances de guérison et d'imposition des mains. Ils parlent du baptême du Saint-Esprit et de dons des langues. Que faut-il penser de tout cela? Qu'en dit la Bible? Commençons par le commencement. Plusieurs fois, dans la dernière année de son ministère, Jésus a préparé ses apôtres à l'imminence de son départ. Le jour approchait où il ne serait plus avec eux. Mais il leur fait une promesse capitale. En voici l'essentiel. « Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Consolateur qui sera avec vous à jamais. C'est le Père qui l'enverra en mon nom. Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. C'est l'Esprit de vérité. Il vous conduira vers la vérité tout entière. » Avant son ascension, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, je vous ai appris. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés, sous peu de jours. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, allait donc venir. En attendant cet événement, ils élirent un disciple du nom de Matthias pour combler le vide laissé par Judas. Matthias fut choisi selon des conditions bien précises. La charge d'apôtre était une charge unique, dotée de prérogatives particulières. Un apôtre ne pouvait se recruter que parmi les témoins directs du Christ. Les 12 reçurent des pouvoirs spéciaux, comme nous le savons, et d'une manière toute spéciale, comme le démontre le baptême du Saint-Esprit, qu'ils reçurent selon la promesse du Christ. Nous connaissons l'épisode des langues de feu qui se posèrent sur chacun des 12 au bruit d'un vent impétueux. Ils furent littéralement immergés dans le souffle de l'Esprit de Dieu, d'où l'expression « baptisés du Saint-Esprit ». La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avec la venue de l'Esprit, leur mission pouvait commencer. Ils pouvaient maintenant parler au nom du Seigneur avec la promesse d'être guidés dans toute la vérité. Ils pouvaient continuer l'œuvre de révélation commencée par leur maître. C'est précisément ce pourquoi ils avaient été choisis. Et pour remplir leur mission, l'Esprit leur donnait un étonnant pouvoir de faire des miracles. Or, il y a de nombreux croyants aujourd'hui qui prient avec sincérité et ferveur que Dieu leur envoie le baptême du Saint-Esprit. Ils sont comme deux des apôtres qui, par l'intermédiaire de leur mère, firent un jour à Jésus une prière impossible à exaucer et à qui Jésus dut répondre « Vous ne savez ce que vous demandez ». Certains s'en réfèrent au cas de la famille de Corneille pour justifier leur prière et leur attente. De quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, seuls les Juifs ont été bénéficiaires de la prédication de l'Évangile. Ils continuent à bouder les païens et sont bien décidés à les laisser croupir dans leurs ténèbres. Une intervention divine décisive sera nécessaire pour briser ce mur millénaire, séparant juifs et païens, pour les unir dans une même famille spirituelle. C'est Pierre qui sera témoin de cette intervention de Dieu. Contraint par une communication divine, Pierre, accompagné de 6 hommes, juifs eux-mêmes, entre sous le toit d'une famille païenne, la famille de Corneille. C'est déjà un grand pas de fait. Et comme il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voyant cela, Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. En racontant ce fait étonnant à l'église de Jérusalem qui lui demandait des explications, Pierre déclara « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » À quel événement fait-il allusion lorsqu'il dit « comme sur nous au commencement » De toute évidence, à cette effusion spectaculaire de l'Esprit sur les apôtres, phénomène qui s'était produit quelques 15 années auparavant. La remarque de Pierre est très significative, car pourquoi remonte-t-il si loin pour trouver un précédent à ce qu'il vient de constater dans la maison de Corneille, si cette effusion de l'Esprit était chose courante dans l'Église, une expérience vécue par tous les croyants, ou presque? Une étude objective des textes amène à cette constatation. Cette effusion directe et miraculeuse de l'Esprit ne s'est vu que deux fois dans l'Église primitive, à savoir d'abord sur les apôtres pour les confirmer dans leur mission, selon la promesse du Christ, puis sur la famille de Corneille, premier païen à venir à l'Évangile, pour donner une sanction divine, définitive, à l'évangélisation du monde non-juif. Encore faut-il signaler que l'effusion de l'Esprit sur la maison de Corneille ne conférait pas aux païens les mêmes dons qu'aux apôtres, par exemple celui d'être guidé dans toute la vérité. Cette considération amène certains exégètes à voir dans l'expérience des apôtres un événement unique, jamais plus reproduit. Ce fut le véritable baptême du Saint-Esprit, tandis que l'expérience de Corneille fut plus limitée et n'avait pas le même but. Ce fut un don miraculeux de l'Esprit, tel qu'il fut accordé plus tard à d'autres disciples par l'imposition des mains, à la seule différence que dans le cas de Corneille, il fut attribué directement par Dieu. Par cette intervention, par ce signe de Dieu, une ère nouvelle venait de commencer dans l'histoire du salut. Nous aurons l'occasion de parler de l'imposition des mains dans quelques instants, mais auparavant, il nous faut répondre à une autre question. Le don de l'Esprit n'est-il pas une promesse faite à tous les croyants? L'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Il précise en outre que Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Effectivement, mais il n'en est pas du don de l'Esprit fait à chaque croyant au moment de sa conversion, comme des manifestations miraculeuses de l'Esprit accordées exceptionnellement à certains individus seulement. L'Esprit de Dieu habite en chaque chrétien. Il agit surtout par la parole qui est l'épée de l'Esprit. Il aide l'enfant de Dieu dans sa faiblesse et intercède pour lui. Il produit les fruits de l'Esprit dans la vie chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la tempérance, etc. Nous avons déjà vu en détail, dans une de nos précédentes études, le rôle de l'Esprit dans la conversion et dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous n'insisterons pas sur ce chapitre-là. Revenons aux apôtres, baptisés du Saint-Esprit. Après leur prédication, 3000 personnes se convertissent en prenant le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Dans cette atmosphère de ferveur et d'enthousiasme, la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les premiers chapitres du livre des Actes nous font vivre la naissance et la croissance rapide de l'Église, puis de nouveau mentionnent le pouvoir extraordinaire des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Le nombre des disciples s'élevait déjà à plus de 5000, mais seuls les apôtres avaient le pouvoir de faire des miracles. L'Église grandissant de plus en plus, il fut décidé qu'on choisirait 7 hommes pour soulager les apôtres dans leur ministère. Ces hommes devaient être pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Ils furent présentés aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ils reçurent par ce moyen des dons spirituels spéciaux. En effet, l'un d'entre eux, Étienne, qui devait devenir le premier martyr chrétien, était plein de grâce et de puissance et faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Certains chefs du peuple essayaient de le contredire en public, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est pourquoi ils le tuèrent à coups de pierre. Philippe était aussi l'un des 7 qui avait reçu l'imposition des mains des apôtres. Il descendit dans une ville de la Samarie pour y annoncer l'Évangile. La Bible dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et lorsqu'ils eurent cru au message que Philippe leur annonçait, hommes et femmes se firent baptiser. Ce qui suit est très important pour comprendre cette question de l'imposition des mains. Toute la Samarie était donc maintenant gagnée à l'Évangile grâce au zèle de Philippe. Les apôtres, l'ayant appris, y envoyèrent Pierre et Jean, 2 d'entre eux. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. Cet épisode nous enseigne que seuls les apôtres pouvaient communiquer le don miraculeux de l'Esprit par l'imposition des mains. Bien que Philippe ait été lui-même rempli de l'Esprit Saint, et bien qu'il ait fait lui-même de grands prodiges, il n'avait pas le pouvoir de transmettre ces mêmes dons par l'imposition des mains. C'était là un privilège strictement apostolique, appelé à disparaître avec le dernier des apôtres. Il est donc erroné de penser que l'on puisse aujourd'hui encore parler en langue spontanément, prophétiser et faire des miracles, puisque les apôtres ne sont plus là pour attribuer de tels pouvoirs par l'imposition de leurs mains. Mais nous verrons cette question-là plus en détail lors de notre prochain rendez-vous.